bienvenue dans Radio Judaïka. Dans l'émission Coachella, vous êtes avec Nathalie Fabreau, coach de vie et coach en entreprise, avec une spécialisation en prévention du burn-out. Et je vous ai déjà parlé de ma campagne Briller sans brûler, qui est faite d'une toute une série de modules pour gérer votre stress et votre résilience et surtout prendre soin de vous. Et dans ce cadre, j'ai aussi le plaisir d'accueillir toute une série d'experts. Et aujourd'hui, une fois de plus, j'ai le plaisir de vous permettre d'entendre encore une fois de plus Isabelle Maes, qui est nutrithérapeute et autrice du livre « Ton alimentation, ta médecine » et qui a déjà développé, dans le cadre des émissions précédentes, différents moments autour de la dimension intestinale, de la prise du poids. Donc nous avons de super émissions dans notre bibliothèque à ce sujet-là, qui sont disponibles donc dans notre bibliothèque Spotify. Vous tapez Coachella et vous pourrez les retrouver. Isabelle, la suite de l'aventure est aujourd'hui. Bienvenue, comment vas-tu?
Bonjour Nathalie, merci beaucoup. effectivement, donc on est là pour la suite des aventures.
Avant de démarrer cette émission, on parlait de la santé du sportif de l'oxydation et de l'acidose
tissulaire.
Voilà, qui étaient donc trois thèmes que tu voulais présenter aujourd'hui qui peuvent toucher beaucoup de personnes. Donc voilà.
Exactement, parce qu'en fait, il y a des sportifs qui ne se savent pas sportifs. Mm-hmm. Je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit.
J'adore cette nuance que tu amènes.
En fait, dès qu'une personne fait plus d'une heure de sport, plus de 4 fois par semaine, ce qui peut arriver même à des gens qui ne sont pas des sportifs professionnels, elle passe en fait dans la catégorie des sportifs du point de vue de l'alimentation et de l'hydratation. Donc je veux dire par là que dès qu'on fait plus d'une heure de sport, plus de 4 fois par semaine, on a réellement besoin d'adapter son alimentation et son hydratation pour éviter toute une série de problèmes.
Alors, j'ai juste une question par rapport à ça. Quand tu dis sport, à partir de quand est-ce qu'on pourrait dire qu'on est en train de faire du sport? Est-ce qu'il y a un certain rythme cardiaque ou une certaine consommation de calories ou manière de fonctionner?
Oui, effectivement. Alors, on peut considérer plus ou moins tout sport qui demande vraiment une dépense physique. Donc, je ne vais peut-être pas parler du jeu de fléchettes ou de la marche. Mais par exemple, une fois qu'on parle de course à pied, une fois qu'on parle vraiment d'une vraie dépense physique, on peut considérer que ça
D'accord.
commence.
Voilà,
que
la, ça la marche compte. Ne compterait pas ou il y a peut-être certains types de marche?
La marche à rythme normal ne compte pas. Bien sûr, c'est de l'exercice, mais elle n'engendre pas de modifications métaboliques telles qu'on peut la compter comme faisant...
Il y a une modification métabolique.
Exactement.
D'accord. Oui. Oh, je suis déçue parce que j'aime bien faire la marche. Je pensais que je faisais du sport.
Mais tu fais du sport, donc tout à fait. Ne t'inquiète pas, tu fais quand même fonctionner ton métabolisme.
D'accord.
Mais tu n'as pas besoin d'une adaptation.
Ok, merci. Voilà, précision importante.
Exactement. Donc, les besoins du sportif sont réellement modifiés. Et tout d'abord en termes de macronutriments. Et également en termes de micronutriments, j'y viendrai après. Donc forcément, il y a plus de dépenses, donc ils ont besoin de plus d'apports, mais aussi d'une proportion plus élevée de glucides et moins élevée de lipides. Et concernant les protides, certains acides aminés sont particulièrement bénéfiques pour la performance d'un côté, mais aussi pour éviter des blessures, pour mieux récupérer, etc.
Ah ben voilà.
Et on connaît tous des sportifs qui prennent des protéines en complément alimentaire pour grossir de manière plus rapide leur masse musculaire.
Ouais.
Mais enfin, ici, ce n'est pas ce dont il s'agit.
Ouais. Ce n'est pas la volonté.
Exactement.
On est plutôt dans la santé, la bonne alimentation et la santé du corps.
Exactement. Mmh. Alors, ils ont également besoin, ces sportifs, que ce soit des sportifs professionnels ou non, d'apports spécifiques en micronutriments et en fait surtout en minéraux alcalinisants, car ils perdent beaucoup de ce type de minéraux via les urines et via la transpiration.
Suite à l'effort, c'est l'effort physique qui génère ça ou...
Mais c'est vraiment la transpiration.
La transpiration.
Et comme l'effort physique nécessite d'augmenter ses apports hydriques, il y a évidemment aussi des urines. Et donc la transpiration et les urines sont les deux méthodes d'excrétion en fait de ces fameux minéraux.
Oui. D'accord. Ouais, ça c'est quand même passionnant parce qu'on n'est pas toujours conscient de ce qu'il y a.
Toujours concernant les micronutriments, Les antioxydants sont également très importants parce que l'exercice intense crée de l'oxydation des cellules du corps. On va en reparler.
D'accord.
Alors, il y a également un risque pour les sportifs d'hyperperméabilité intestinale. On en a parlé lors d'une émission précédente. Oui. Lors d'efforts intenses, et qui peut malheureusement devenir permanente s'il y a des apports insuffisants en certains nutriments. Et enfin, les boissons prises par les sportifs doivent aider à compenser la perte des minéraux, surtout le sodium, et la perte de glucides. Et donc, il existe des boissons spécifiques. Et on peut aussi fabriquer soi-même sa propre boisson de réhydratation.
Et qu'est-ce qu'on mettrait dedans alors ?
Eh bien, en fait, donc forcément de l'eau et également du sel et des glucides. Il ne faut surtout pas prendre par contre de boissons énergisantes parce qu'elles contiennent du phosphore, hein, idem que dans les sodas, trop de glucides et pas assez de sel, donc elles ne sont vraiment pas adaptées. Et enfin, pour terminer sur les besoins spécifiques du sportif ou de la sportive, il y a d'autres choses à prendre en compte, surtout en période de compétition, si compétition il y a, et concernant la gestion du poids, si problématique de poids il y a, par exemple, pour passer d'une catégorie à l'autre.
Ah ben, ça fait tout un programme. Donc, par rapport à ça, quelle serait la conclusion ou le résumé que tu voudrais en faire ?
En fait, le résumé, c'est que même si on n'est pas sportif professionnel, le sport intense, la pratique intense du sport, demande des adaptations de l'alimentation et de la boisson, donc pour être synchro avec les besoins spécifiques, que ce soit en termes de macronutriments et de micronutriments, et avec les risques, notamment en termes au niveau intestinal.
Bien, donc ça nous amène à quel prochain chapitre, chère Isabelle ?
On a parlé d'oxydation. Oui. On a dit que pour les sportifs, il y avait un besoin plus important d'antioxydants, puisque l'exercice crée l'oxydation. Donc je crois que je dois à tous nos auditeurs un peu plus d'explications sur ce phénomène. Alors c'est quoi l'oxydation ? C'est un phénomène naturel qui se produit d'office via la respiration. Donc quand nous respirons, nous créons de l'oxydation dans notre organisme. Mais pas de panique, il compense en grande partie grâce aux antioxydants. Alors, c'est quoi ces antioxydants ?
Voilà, ça allait être ma question, si tu peux développer ça.
Exactement. Il y en a de deux types. Il y a les exogènes qu'on absorbe via l'alimentation, donc par exemple la vitamine C, la vitamine E, le zinc, etc. Il y en a d'autres. Et les antioxydants endogènes, qui sont notamment des enzymes. Il faut savoir, et ça souvent intuitivement on pense l'inverse, que ce sont les antioxydants endogènes, ceux que nous synthétisons nous-mêmes, qui sont beaucoup plus puissants, qui sont les plus efficaces.
Ok, d'accord.
Et donc, il est important de favoriser la synthèse de ces antioxydants endogènes via évidemment les apports alimentaires.
Et qu'est-ce qui favorise ça alors ?
Alors vraiment une très très longue liste, mais je dirais pour simplifier que la bonne alimentation favorise ces apports qui permettent une synthèse suffisante d'antioxydants endogènes. Par contre, une chose qui est également rarement connue et dont il faut tenir compte, c'est que prendre des compléments alimentaires d'antioxydants exogènes, par définition, donc vitamine C, vitamine E et autres, quelque chose auquel on est très fort encouragé par les fabricants de compléments alimentaires, n'est pas nécessairement une bonne chose. En fait, les études ont vu que ça peut être contre-productif, que ça peut empêcher l'organisme de se confronter au stress oxydant et par là de se renforcer. Et donc, c'est déconseillé.
Ah, ben ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas vraiment développé.
Non, je
sais. Pour plein de raisons. Mais le fait de prendre conscience que le corps a besoin d'être, j'ai envie de dire, challengé, boosté.
Challengé, tout à fait.
Ouais, oui, d'accord, oui, ok. Oui. Peut l'amener alors à lui maintenir sa production, sa synthèse, c'est ça ?
Exactement. Une bonne alimentation, dans le sens une alimentation naturelle, diversifiée, etc., avec aussi peu d'aliments ultra transformés que possible, permet d'apporter tous les nutriments nécessaires à la synthèse des antioxydants endogènes, qui sont vraiment les plus puissants, les plus efficaces. Et à contrario, prendre des compléments alimentaires d'antioxydants exogènes, qui sont déjà à la base moins efficaces, peut même carrément être contre-productive.
Donc ça, c'est vraiment important, oui. Vraiment, vraiment bon à savoir, chers auditeurs, auditrices. Mm-hmm.
Et alors, je voulais enchaîner, si je peux, sur l'acidose tissulaire, puisque j'ai parlé également dans le cadre des sportifs sur le fait qu'ils ont des besoins plus importants de micronutriments, de minéraux alcalinisants.
Oui.
En fait, tout un chacun, qu'on soit sportif ou pas, peu importe, nous avons dans notre organisme un équilibre très important entre les acides et les bases.
Ouais. Voilà. L'équilibre acido-basique.
Exactement, qui est un équilibre qui a un impact direct sur la santé osseuse, mais aussi articulaire et musculaire. Alors, il y a différentes choses intéressantes à savoir. Premièrement, ce n'est pas parce qu'un aliment est acide au goût qu'il est acidifiant.
Oui.
Donc, on parle bien d'aliments acidifiants ou alcalinisants, le contraire donc, mais pas nécessairement d'aliments acides ou sucrés.
Je ne sais plus si c'est le citron ou le pamplemousse qui porte ce paradoxe. C'est le pamplemousse, hein ?
Effectivement, en fait, tous les agrumes, que ce soit le pamplemousse, le citron, l'orange, etc., ont un goût acide, ça on le perçoit tout de suite, et pourtant ce sont bien des aliments alcalinisants.
Ah bah, voilà. Y compris l'orange.
Y compris l'orange.
Ah ben j'ai découvert quelque chose.
Et donc voilà, c'est également quelque chose que je voulais dire pour aider nos auditeurs. C'est quoi les aliments acidifiants et c'est quoi les aliments alcalinisants ou basifiants ? C'est un synonyme. Les aliments acidifiants, ce sont surtout les protéines animales, donc à savoir la viande, le poisson et les produits laitiers.
Oui.
Et on peut également rajouter le sel. Tandis que les aliments basifiants ou alcalinisants, ce sont surtout les légumes et les fruits. Que leur goût soit acide ou pas, ce n'est pas lié.
Ça, c'est vraiment super important. Et alors, il y a quand même un élément qui m'interpelle. Tu parlais du sel.
Oui.
Donc, il favorise l'acidité.
Le sel est très acidifiant, malheureusement, pour l'organisme.
Ah, bah, voilà. Alors. Qui l'eût cru ?
Exact,
ouais.
Qui l'eût cru ? Ce n'est pas évident au premier abord.
C'est vraiment passionnant, tout ce que j'entends ici. Moi, j'ouvre encore les yeux, malgré le fait que... Voilà, je me suis intéressée à cela depuis des années parce que j'ai eu des intolérances en fait et qu'on m'avait vraiment, on m'avait bien dit, voilà, il y a les intolérances d'une part et il y a la dimension acido-basique qui est tout aussi importante. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien entre les intolérances et l'acido-basique.
Il n'y a pas nécessairement de lien, mais il est vrai de dire que c'est vraiment très très important. Et en fait, pour conseiller nos auditeurs, la meilleure manière de conserver ou d'atteindre cet équilibre dans l'organisme, qui est un équilibre qui normalement s'établit naturellement parce que avec l'arrêt de dépenses physiques, l'arrêt d'activité physique et le sommeil, le corps se basifie pendant la nuit, tandis qu'avec l'activité et avec l'alimentation, il s'acidifie durant la journée.
D'accord.
Donc ça, c'est en principe un travail qui se fait naturellement. Mais avec notre alimentation actuelle, très souvent, nous sommes plutôt en acidose parce que nous avons trop d'apports alimentaires acidifiants et pas assez d'apports alimentaires alcalinisants.
Mm-hmm.
Par exemple, les sodas, qui sont très, très répandus dans l'alimentation d'aujourd'hui, sont extrêmement acidifiants.
Oui.
Donc voilà, ça n'aide pas. La meilleure manière d'aider notre organisme à rétablir cet équilibre est de veiller à ce qu'il y ait 12 heures de jeûne, donc 12 heures sans manger, chaque jour, pendant la nuit, c'est la période la plus intéressante pour le faire. Mais donc, ça veut dire que les personnes qui prennent un petit déjeuner assez tôt, mettons un petit déjeuner à 7 heures du matin, devraient idéalement arrêter de manger au-delà de 19 heures le soir.
D'accord. Et pour vraiment pouvoir faire ce cycle.
Pour avoir cette fenêtre de 12 heures, oui.
Et alors, moi j'ai une question, il n'y a peut-être aucun lien, mais elle me vient. Y a-t-il un lien entre les sucres et l'acidité, ou pas ?
Alors, oui et non. Donc, forcément, en général, le sucre, si on le consomme en dehors des fruits, les petites douceurs sucrées et autres, c'est dans le cadre d'un aliment transformé.
Mmh.
Et un aliment transformé a également souvent des additifs, du sel, etc. Donc, sur la ligne qui va des aliments les plus basifiants aux aliments les plus acidifiants, ils vont forcément plutôt être du côté des acidifiants.
D'accord, ok. Oui, mais c'est lié aux composantes complémentaires qu'il y a dans cette nourriture et le fait qu'elle soit transformée.
Exactement, exactement. D'accord. C'est plutôt lié à cela.
Et quand tu parles de soda, est-ce que tu inclus l'eau pétillante ?
Non, heureusement non.
Ah, ouf !
J'inclus vraiment tout le reste, hein, donc tout ce qui notamment contient du phosphore, mais également très souvent du fructose, ou bien encore pire que le fructose, des édulcorants, contient des additifs, etc.
Ouais.
C'est vraiment extrêmement mauvais. Je voudrais pouvoir dire qu'on peut se le permettre de temps en temps, se faire un petit plaisir, etc. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pas se faire du bien.
Non, d'accord. Ouais. Ça va vraiment à l'encontre, j'imagine. D'accord. Eh ben, mais qu'est-ce que c'est passionnant tout ça. Alors, quel est l'enchaînement que tu vois par rapport à tout ce que tu viens de dire?
Mais en fait, donc, je trouvais important de souligner que qu'on soit sportif professionnel ou pas, quelqu'un qui fait beaucoup de sport, quelle qu'en soit la raison par ailleurs, sans que ce soit sa profession au cours d'une semaine, doit quand même être attentif à modifier son alimentation et son hydratation, qu'il est à risque de certaines choses, et notamment d'oxydation trop importante et d'acidose tissulaire, en plus de, je l'ai dit, d'hyperperméabilité intestinale lors d'efforts intenses, et que cela nécessite donc des stratégies à mettre en place pour contrer ces phénomènes. Ceci étant, l'oxydation ne concerne pas que le sportif, elle nous concerne tous à partir du moment où nous respirons. Évidemment, ça nous concerne bel et bien tous. Notre organisme se débrouille très bien pour contrer cette oxydation qui est liée à la respiration. Pas que d'ailleurs, il y a évidemment aussi l'exposition aux rayons ultraviolets, l'effort physique intense, etc. Mais le phénomène principal reste la respiration. Donc notre organisme contre ce problème par les antioxydants, que nous tirons soit directement de notre alimentation, ce sont les exogènes, ou que nous synthétisons naturellement, ce sont les endogènes, mais ce sont bel et bien ces derniers qui sont les plus performants, les plus puissants.
Et je t'avais entendu dire que comment essayer avec des compléments alimentaires extérieurs de combler le besoin d'antioxydants n'était pas vraiment la bonne piste.
Non, on a remarqué via les études que la prise de compléments alimentaires d'antioxydants exogènes du type vitamine C, vitamine E, zinc, etc., n'est pas nécessairement une bonne chose parce que ça empêche l'organisme de s'adapter au stress oxydant et de se renforcer. Et donc, malheureusement, on a même déjà vu des effets tout à fait contre-productifs de corrélation plutôt établie entre la prise d'antioxydants et une incidence plus importante de maladies. Donc, c'est vraiment à éviter, alors qu'intuitivement, on se dit qu'on se fait du bien, mais hélas, non.
C'est une notion de modération et de vraiment rester dans cette conscience à soi, à son intuition, son corps, écouter son corps.
Tout à fait.
Pour voir s'il a certains besoins. Normalement, on le ressent à travers le choix des aliments qui peuvent nous inspirer.
Exactement. Et surtout, de vraiment considérer que la base, c'est vraiment la bonne alimentation, qui, a priori, n'est pas nécessaire d'aller jouer comme ça à la marge en se complémentant avec ceci ou cela. Surtout, ne jamais se complémenter sans suivre des principes. J'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre émission. Mais il ne faut pas considérer les compléments alimentaires comme des bonbons. Ils ont vraiment des effets importants. Et il y a parfois des choses que l'on fait en toute bonne foi, en pensant se faire du bien, alors que ce n'est pas le cas.
Ouais, donc c'est vraiment de rester très très prudent. Et si je t'entends, c'est aussi quand on parle des compléments, parce que tu as des compléments qui sont vraiment des vitamines, et puis tu as des compléments qui sont plus, comme des poudres ou des extraits comme de la cérola, de l'aloe vera ou. Je viens avec ça, tu vois, ce ne sont pas vraiment des vitamines telles quelles, mais ce sont des compléments. L'on positionne comme riche en...
Exactement, c'est ça que je voulais dire pour répondre à ta question, c'est qu'au final, quelle que soit la manière dont c'est amené, et évidemment, c'est mieux que ce soit amené sous une forme naturelle telle que aloe vera, acérola, etc. Mais au final, pourquoi les utilise-t-on? Pour en tirer les nutriments, qui sont essentiellement les vitamines, les minéraux et d'autres substances qu'on peut apparenter, donc des polyphénols, des antioxydants, etc. Mais effectivement, tu as raison, entre un nutriment de synthèse ou un nutriment extrait directement d'une matrice naturelle, bien entendu, ce sont les origines naturelles qui sont préférables.
J'entends.
Effectivement. Et peut-être une toute dernière conclusion par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc de nouveau, qu'on soit ou non sportif, professionnel ou amateur, peu importe, nous sommes tous également à risque de ce qu'on appelle l'acidose tissulaire, donc un déséquilibre entre l'acidité et le contraire au sein de l'organisme. Et ça crée notamment des problèmes de type osseux, articulaire et musculaire. Pour éviter ça, d'une part, une alimentation qui favorise un bon équilibre entre les aliments basifiants et les aliments acidifiants, sachant que ce qui est basifiant, c'est essentiellement les légumes et les fruits. Mmh. Et d'autre part, essayer dans la mesure du possible d'avoir au moins 12 heures entre le dernier aliment du soir et le premier aliment du matin.
Pour pouvoir permettre au corps de... Alors, j'imagine qu'il y avait
parce
un lien, voilà, ce
corps,
côté basique.
Exactement,
voilà,
le, parce qu'en fait, l'organisme fait son travail pendant la nuit.
Voilà, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. L'organisme fait son travail pendant la nuit pour désacidifier les choses. C'est grâce au sommeil, grâce au fait de ne pas avoir de prise de nourriture que cette désacidification a lieu. Mais évidemment, si on se relève deux ou trois fois pendant la nuit pour quand même aller grignoter un petit quelque chose,
on a cassé la dynamique.
Voilà, à ce moment-là, ce phénomène ne peut pas, ce mécanisme ne peut pas avoir lieu.
Et donc, en conclusion, les repas lourds le soir avec du vin ne sont vraiment pas, même si pris avant 19h, ne sont peut-être pas l'idéal non plus. Un steak frites salade avec
ils
un verre de vin.
Ils ne sont pas idéaux, mais peut-être pas nécessairement par rapport à cette problématique acide base. Si on a une fenêtre de 12 heures, c'est quand même déjà pas mal.
Oui.
Mais effectivement, voilà, ce que tu as cité est déjà très acidifiant. Donc de fait, ça va renforcer l'effort à faire. mais en plus de cela, il y a d'autres paramètres qui font qu'en effet, des repas riches le soir sont pas conseillés.
D'accord, oui. Voilà. Pour encore certainement plein d'autres raisons.
Oui, il y a d'autres explications à apporter, mais je crois qu'on manque de temps aujourd'hui pour le faire.
Voilà, on va commencer tout doucement à amorcer le début de la conclusion de cette émission, qui a été vraiment, vraiment très, très riche et très passionnante une fois de plus. Alors, il y a d'autres thématiques dans lesquelles tu es spécialisée. Hein. Donc, l'alimentation par rapport à la femme, par rapport aux maladies, par rapport à la prise de médicaments, par rapport voilà, à certains types de maladies comme le cancer, par rapport... je ne sais pas pourquoi je me disais, même adolescent, enfin, il y a peut-être...
Effectivement, tout ce qui est hormonal, effectivement, peut être traité par la nutrithérapie.
Ouais.
La nutrithérapie a vraiment un mécanisme d'action très large, bien entendu. Je ne prétends pas, et d'ailleurs ce n'est pas le cas, que la nutrithérapie peut guérir un cancer. Méfions-nous des charlatans, ce n'est pas du tout le cas ici. Mais par exemple, dans le cas du cancer, la nutrithérapie peut aider à éviter certains facteurs de risque et peut également aider en accompagnement de traitements anticancéreux pour en minorer les effets secondaires et en augmenter l'efficacité, effectivement.
Donc nous avons encore ces sujets qui m'amèneront à t'inviter encore à cette émission si tu auras du temps pour nous. Alors je vous rappelle juste que donc Isabelle Maes, qui est nutrithérapeute et auteure du livre « Ton alimentation, donc ta médecine », et qu'elle donne des conférences, des ateliers, des consultations, et que vous pouvez la joindre à Isabelle, je te laisse répéter les coordonnées.
Alors, www.isabellemaes, tout en un mot, Maes écrivant M-A-E-S.com.
Voilà. Donc, vous pourrez lui adresser toutes ces questions. Et si vous avez envie qu'elle aborde un point précis dans le cadre d'une prochaine émission, je vous invite à me contacter à mon adresse mail Nathalie, nathalie.fabro@skynet.be ou au 0485 33 33 41 pour toute question que vous pourriez avoir en lien avec la nutrition, voire aussi, je le dis dans chaque émission, si vous connaissez des experts qui aimeraient se faire connaître dans le développement personnel, mental, émotionnel, physique, voire énergétique, voilà, cette émission est là au service de, voilà, de vraiment de la vulgarisation, mais dans le bon sens du terme, de permettre aux auditeurs, auditrices d'avoir accès à cette information, de connaître les experts que nous avons dans notre pays. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et je vais donc terminer cette émission voilà, en faisant également le lien avec toute cette notion de prévention du burn-out. L'alimentation est un des pôles vraiment c'est un pôle qui est vraiment, c'est un pilier. Tu en as parlé dans une émission précédente.
Effectivement.
Et je crois qu'on y reviendra également dans une émission ultérieure. Parce que voilà, ça sera vraiment passionnant. Je te remercie infiniment.
Merci à toi.
D'être venu
avec plaisir
à cette émission, d'avoir encore complété cette dimension voilà, sur La santé, donc par rapport aux soucis intestinaux, par rapport aux personnes qui font du sport, sur l'importance de bien adapter leur alimentation, sur les corrélations qu'il y a par rapport à ce corps qui a besoin de garder un bon équilibre acido-basique et l'importance d'avoir une alimentation qui soit suffisamment globale et saine et le moins transformée possible pour aussi avoir cet apport, cette capacité de transformation, de synthèse interne par rapport à l'oxydation au lieu d'avoir recours à des soutiens externes qui n'aident pas le corps à développer sa bonne résilience, endurance, pour rester en bonne santé.
Exactement.
Dit avec mes mots.
C'est tout à fait ça.
Non, merci. Chers auditeurs, auditrices, ces émissions sont diffusées les mercredis à 10h, Coachella, et également le jeudi à 15h30, rediffusion, et puis disponible dans notre bibliothèque sur Spotify, Coachella, toutes nos émissions sont là. Si vous voulez réécouter cette émission-ci, vous verrez qu'elle porte le nom donc d'Isabelle Maes, et donc c'est une émission qui sera là, disponible pour vous, et je vous souhaite d'en faire bon usage. Isabelle, merci énormément.
Merci à toi.
D'être venue et d'avoir pris le temps de partager toute cette connaissance avec autant de générosité. Et je te dis à très bientôt.
À très bientôt.